Bonjour à tous. Dans la grande table des idées aujourd'hui, retour sur les célébrations de la grande victoire en Russie avec l'historienne Galia Ackermann, auteure de Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle, un essai historique qui revient sur les rapports qu'entretient la Russie d'aujourd'hui à son histoire, sur le renouveau patriotique et le soviétisme sans communisme tel qu'elle l'appelle promu par Vladimir Poutine. Ce sera à partir de 12h55. Mais d'abord, vivre plutôt que survivre, prix Chino del Duca pour l'ensemble de son œuvre en 2016, prix Femina pour Jour de colère et Goncourt des lycéens pour Magnus, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, Sylvie Germain poursuit son œuvre de mémoire et de vie dans un nouveau roman, Le vent reprend ses tours, il paraît chez Albin Michel, et elle est tout de suite notre invitée à écouter sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Jouer, faire se mouvoir les choses, bouger le monde, remuer le temps, concevoir du nouveau, jongler avec les mots, les idées, les images et les sons, voilà ce qui importe, tout le reste est vanité. Bonjour Sylvie Germain.
Bonjour.
Le vent tourne et ce faisant reprend toujours ses tours. Quel sens vous donnez à cette phrase de l'Ecclésiaste que vous avez choisie comme titre de ce nouveau roman ?
Alors, la phrase de l'Ecclésiaste aurait plutôt tendance à dire que tout revient toujours au même. C'est pas un éternel retour du même, mais plutôt des tournoiements en spirale. Et le vent reprend ses tours dans nos vies, oui, on peut prendre cette image-là. Surtout, ce qui s'est levé dans l'enfance, ou ce qui n'a pas pu se lever. Et voilà, ça revient dans nos vies, ça peut se relever avec parfois des décennies de retard, mais pas exactement, ça fait pas bouger les choses exactement au même endroit, ça déplace un petit peu. Et c'est l'histoire d'un des deux personnages principaux, celle de Nathan, qui pendant longtemps reste finalement à côté de sa propre vie, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et puis, un jour, quelque chose se redéclenche et oui, le vent reprend aussi son mouvement, la vie reprend mouvement.
Et ce mouvement, il est d'ailleurs incarné par l'autre personnage qu'on va présenter, Gavril, qui lui mise toute sa vie sur le mouvement contraint, celui de l'exil, on va revenir sur son passé, comprendre qu'il a dû fuir, mais aussi le mouvement dans la vie qu'il s'est choisi, le mouvement pour lui est synonyme de liberté, c'est le sens qu'il choisit de donner à sa vie.
Oui, à travers comme vous avez cité au début, les jeux, mais un jeu très sérieux, comme on dit quand les enfants jouent, jeu sur les mots, sur les sons, sur pour faire aussi ressurgir sans arrêt la mémoire, parce que c'est important aussi ce qu'il fait dans la ville quand il va prendre un petit peu l'enfant avec lui et une espèce de camaraderie avec une quarantaine d'années d'écart entre eux et qui se promène dans la ville et qui lui fait regarder, qui le fait s'arrêter devant toutes ces traces dont sont marquées les villes, les plaques commémoratives, les rappels de là vécu. Un poète, un artiste, un homme politique, une personnalité, mais aussi de cette école, une quarantaine d'enfants ont été déportés, ne sont jamais revenus parce que juifs. Si on regarde bien une ville, c'est fou tout ce qu'il y a comme traces et indications du passé.
Dans ce roman, la vie reprend ses tours, Sylvie Germain, Nathan part à la recherche d'un homme qu'il a connu enfant et qu'il pensait mort, un drôle d'oiseau qu'il aimait tant. Vous le décrivez comme tel, cet homme qui lui était apparu la première fois sous l'aspect d'un grand ibis aux vocalises désarticulées et aux chants envoûtants dans leur dissonance. Était-il une chimère, mi-humain, mi-oiseau, un mage saltimbanque, un ange braque ou un bandit bienveillant. Ils vont se lier d'amitié, ils veulent sortir Nathan de sa vie un peu morne, de cette relation compliquée et distante qu'il a avec sa mère, un enfant qui n'était pas désiré, on le comprendra plus tard. Et c'est par un avis de recherche qui va être collé sur un abribus qu'il va découvrir que, en fait, Gavril, qu'il pensait mort, serait encore vivant. Il part donc à sa recherche. En réalité, Gavril est disparu depuis peu et c'est donc toute cette quête à travers les traces qu'il a pu laisser, pas simplement sur les murs des immeubles, mais dans la vie d'autres personnes, qu'il va essayer de remonter le fil de cette vie qu'il avait au fond si mal connue. À la manière des souffleurs, ces commandos poétiques, la poésie fait irruption un peu partout dans ce roman. Les souffleurs qui disent considérer la poésie comme une écriture de guérison.
Les souffleurs sont nés d'une phrase écrite lors d'un spectacle. L'humanité se reproduit de bouche à oreille. Nous avons du coup, par rapport à cette phrase, travaillé une métaphore de la transmission du savoir entre les êtres humains. Et d'une certaine manière, comme nous sommes un collectif, les souffleurs commando poétiques, qui travaillons autour d'une tentative de ralentissement du monde, nous avons pensé que l'un des piliers éthiques de cette tentative était tourné autour de cette phrase.
Lancer les mots comme des cailloux.
La poésie, nous considérons que c'est une pharmacopée essentielle, un trésor doté de principes actifs extrêmement puissants. Littéralement, nous délivrons cette parole parce qu'elle nous semble être une écriture de guérison et qu'elle crée des tempêtes douces à l'intérieur des hommes.
Les mots d'Olivier Comte, directeur artistique des Souffleurs, ils ont cette devise qui ne peut que vous parler, Sylvie Germain, l'humanité se reproduit de bouche à oreille.
Ah oui, j'ai tout de suite remarqué, ça me plaît beaucoup et l'ensemble de ce qu'il a dit. Oui, mais c'est la première mémoire. Pour beaucoup, dans beaucoup de civilisations, avant l'écrit, les choses se reproduisent, la mémoire passe par le bouche à oreille, avec fatalement des déformations qui peuvent survenir. Mais, et d'ailleurs, ça me ramène au personnage, un des deux personnages au centre du livre, celui de Gavril, le saltimbanque, celui qui véhicule comme ça sans cesse la mémoire, les poèmes. Il vient d'une communauté de Rome en Roumanie, et où il n'y a pas de tradition d'écriture. Les choses se passent, se déposent dans le bouche à oreille. Et je trouve ça très beau, cette transmission directe, comme on peut trouver en Afrique, comme on peut trouver dans beaucoup de pays, et comme longtemps dans nos propres pays. C'était d'où l'importance des conteurs. On peut les appeler bardes ou autres, mais l'art du conteur est un art vital pour une société, pour une communauté.
Nos sociétés ont trop perdu cet art de l'oralité aussi. L'écrit a tout écrasé d'une certaine manière. C'est intéressant de poser cette question à une écrivaine, justement.
Oui, mais en même temps, je ne vais pas condamner du tout l'écrit. On va parvenir au procès de l'écrit fait déjà par Platon. Parce que s'il n'y avait pas eu l'écrit, nous n'aurions pas les textes de Platon, d'Aristote et de tant d'autres. Ça serait quand même éminemment dommageable. C'est plutôt l'usage que l'on fait de la parole. Je trouve que souvent, on parle beaucoup trop, comme on le dit pour l'image, on vit maintenant dans une société où il y a une surabondance qui est même un excès d'images et de paroles déversées, et avec avec Internet, avec tous ces échanges, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça finit par faire un grand brouhaha, comme l'excès d'images aussi finit par user le regard, par l'égarer. Après, c'est une question peut-être de dosage, de tonalité, de justesse de ton. Ce que savent faire, bien évidemment, les chuchoteurs.
Gavril, lui, est un souffleur. Il compte et souffle des mots, des bribes de mots, des fragments, presque des onomatopées aussi, dans l'oreille des autres, dans la rue. Il vit cette liberté, qui est assez rare d'ailleurs en France. Hein, des personnages aussi hirsutes que ce Gavril que vous avez imaginé existent peu ou trop rarement. Quelle poésie vous souffleriez à notre oreille aujourd'hui?
Déjà celle que je fais.
Parce que le micro, c'est un peu ça. Hein.
Que je prête à ce Gavril. Mmh. Alors, il y a des citations de poètes roumains, parce que c'était aussi une manière de saluer ce pays et cette culture assez extraordinaire. Il y a énormément de poètes issus de ce pays et qui sont venus en France. Je pense à Paul Celan, même s'il était de langue allemande, à l'autre poète dont je parle plus vers la fin, qui était un personnage assez plus qu'extravagant.
Il y a ce Sorin Marcouleșcu que vous mettez en exergue de vos chapitres,
oui.
Aussi, hein, et qu'on connaît
peu. Mais lui, il est
plus
contemporain. Mm. Et sinon, Gerasim Luca ou d'autres. Et vous voyez, écrire, ça permet aussi de prendre un peu un rôle de chuchoteur. Grâce aux citations, grâce à des rappels que l'on peut faire ou des personnages que l'on peut même carrément remettre en scène, mais même le fait de glisser quelques citations de ci, de là, on ne sait jamais, peut-être qu'un lecteur sera touché par tel vers et ira chercher plus loin l'œuvre de ce poète et lira des recueils de ce poète. Et puis, ce qu'il y a d'admirable dans la poésie, c'est que parfois, en quelques mots, en un seul vers, c'est ce resserrement où les mots deviennent, parfois ça peut être une juxtaposition simplement de mots très simples, mais qui deviennent, de par leur contact, comme explosifs. Et voilà, ça ranime, ça revivifie la, et notre oui intérieur et notre regard.
Alors je vous laisse peut-être nous souffler la première citation que vous mettez en exergue de Marcoulescu au chapitre 1. Et je précise qu'il semble un peu fâché, ce poète roumain, avec les majuscules, mais quand même épris de concision, qu'il dénude les mots, lui, jusqu'à l'os, hein.
Oui, c'est extrêmement, extrêmement dépouillé. Alors là, c'est qu'une partie, parce que je l'ai égrené un peu en tête des trois chapitres. Ça peut sembler un peu obscur, finalement, ça ne l'est pas. Tu ne viens pas, tu es. Loin est ton champ, ici où? Tu ne viens pas, tu es seulement toi, le lointain de toi en toi. Ici, le silence est ton autel.
Vos mots, à vous, Sylvie Germain, sont des mots de prose. Vous n'écrivez pas de poésie?
Non.
Vous aimez celle des autres, mais vous n'aimez pas en écrire?
J'aime beaucoup celle des autres, et justement, je vois que c'est un art très particulier. On me fait souvent remarquer que j'ai une prose poétique, parce que effectivement, j'ai une grande passion pour les mots, mais quand je dis les mots, c'est à la fois la sonorité des mots, les vocables. Déjà, c'est un mot que je trouve magnifique, un vocable. Je trouve ça très très joli mot. Mais même la grammaire, avec ses contraintes, et comment on peut jouer avec ses contraintes à l'intérieur de ces contraintes. La syntaxe, il y a tout. Une langue, c'est tout un ensemble. On ne peut pas penser sans langue. Et selon la langue dans laquelle on a appris à parler et à penser, notre pensée déjà va prendre une certaine tournure, une certaine saveur. D'où parfois les difficultés de compréhension avec d'autres personnes, même si on arrive à trouver une langue commune, mais qui ont appris à parler et à penser dans une langue structurée très différemment.
Guérir, transmettre et ralentir le monde, c'est peut-être ça aussi la fonction de la poésie. Il y a cet échange dans le roman Le vent reprend ses tours entre Awa qui travaille à l'hôpital et qui a connu Gavril sur ses derniers jours et Nathan qui vient la rencontrer pour en savoir un peu plus. C'est aussi la rencontre une fois encore entre deux êtres. Ils se disent, il était une sorte d'anthologie poétique vivante. Il déclamait des vers comme on respire, mais il y a si longtemps, j'ai presque tout oublié. Il me reste des bribes, parfois me reviennent quelques strophes, quelques vers. Quant à en écrire, j'en serais incapable. Et vous ? Demande Nathan à Awa. Non plus. La poésie, répond-elle, je la trouve chez les autres. Je la lis dans leur vie. Ah bon ? Demande Nathan. Vous trouvez la vie des gens poétiques, vous ? Et je vous retournerai bien la question, Sylvie Germain.
C'est une question en fait de regard et encore là aussi d'écoute, de regard et d'écoute donc que l'on porte déjà sur le monde. Alors c'est vrai, on pourrait dire de chacun que déjà le simple fait de venir au monde, qui reste quand même très très mystérieux, cette vie, et on pourrait faire de chaque vie un poème. Mais c'est comme chez les poètes, il y en a de très peu qui sont doués, qui écrivent une poésie forte, singulière et bouleversante. Bon, pour la plupart d'entre nous, c'est de la poésie un peu ratée, hein, parfois même encore pire que ça. Mais après, tout est une question en fait de regard et la manière d'interpréter le monde, d'interpréter les choses, d'interpréter les événements.
La suite de ce passage et de ce dialogue, on prétend que les plus beaux poèmes sont ceux que l'on n'a pas écrits. La plupart des gens n'en composent pas, mais tous en font rien qu'en vivant. Et on trouve tous les genres, des burlesques, des baroques, des érotiques, des élégiaques, des surréalistes, des classiques, des lyriques, quelques héroïques, beaucoup de tragiques. La poésie dans la vie des gens poétiques. Je vous propose d'écouter une poésie. Pas raté, celle de Yvon Lemaine. Il a reçu hier le prix Goncourt de la poésie, le poète breton Yvon Lemaine, auteur d'une quarantaine de recueils. Tout de suite, putain de gosse qui braille.
Putain de gosse qui braille. Que faire? Ils ne font que vivre. Mais cette nuit, ce ne sont pas des gosses, des enfants. C'est, je ne sais pas, ça s'infiltre. Sous les boules quièces, ça ressemble, ce n'est pas possible. Ça ressemble à des appels au secours, une voix de femme sous une voix d'homme. Ce ne sont pas des voix, c'est avant les voix ou après. Ce sont des bruits de guerre entre un homme et une femme et des enfants au milieu qui ne braillent pas, mais pleurent en braillant. Encore la voisine du dessus, son homme est rentré, son homme lui tape dessus. Je sors, j'hésite entre chaussons et chaussures au cas où je devrais me défendre et défendre. Au secours, au secours, au secours. Le 17, le 17, le 17, mais d'où viennent les cris? Ce n'est pas dessus, j'ai vérifié, l'oreille collée aux portes. Ce n'est pas dessous, j'ai vérifié. Ce n'est pas possible, au vu de la belle personne du dessous. Le 17, le 17, le 17. Et tout s'arrange. Je n'ai jamais appelé les filtres de ma vie. Mais d'où? Mais qui? Je ne sais pas d'où viennent les coups qui font du bruit. Au secours, au secours, au secours. Ce n'est rien, diront les flics au matin, appelés par des voisins de voisins. C'est un couple qui se bagarre, apparemment. Apparemment, redit le gardien de la paix en infiltrant dans sa voiture, menotte au poignet torse nu, la jeune brute en pantalon de jogging blanc, le coupable apparent, à qui il faut 8 policiers pour se faire arrêter, en flagrant délit de coups au corps et blessures aux oreilles. Au moins 3 voitures, 2 motos, et des lumières qui clignotent entre nuit et jour, entre chien et loup, entre le numéro 20 où elle crie et le numéro 22 où je vis. Ce n'était pas du dessous, du dessus comme hier, que venaient les bruits, mais d'à côté, car comme disent les policiers, les bruits circulent par les cages d'escalier. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Jusqu'à quand Maurepas ne dormira pas.
Extrait de ce poème de Yvon Lemaine, pris dans le livre, le recueil des rumeurs de Babel, paru aux éditions Dialogue en 2016. Et il lisait cette poésie de lui au théâtre Chateaubriand de Saint-Malo, puisqu'il est un invité régulier aussi du festival Étonnant Voyageur. Sylvie Germain, ces mots vous touchent?
Ah oui, beaucoup, parce qu'il dit là aussi quelque chose de très juste, les mots circulent, les voix circulent, les bruits circulent, et ça peut venir de très loin parfois. Quelque chose qui est proche, on ne l'entend pas, et quelque chose qui va être murmuré et mais qui vient de loin. Vous savez, comme ces chambres d'écho où on mettait son oreille à un certain endroit et on pouvait entendre des conversations tenues dans des pièces assez éloignées. Et cette circulation du bruit m'a toujours fascinée. Et mais on peut appliquer ça de manière plus métaphorique à ce qui se passe dans nos propres vies. Voilà, le vent reprend ses tours. Quand le vent se relève, il y a un chuintement, il y a un bruit, il y a un chuchotement, il y a une rumeur. Et quand des souvenirs se lèvent suite à un choc, à une surprise, à un traumatisme, ou parfois, soudain, comme ça, quelque chose qu'on avait oublié, mais complètement oublié, ou refoulé, et qui revient, qui refait surface, ce sont des voix de notre enfance, des voix du passé qui nous reviennent. Et on peut aussi appliquer ça à l'histoire elle-même, à nos sociétés. Parfois, il y a des retours comme ça, plus ou moins massifs, parfois très violents, qui reviennent à la mémoire des peuples, qui se retournent et qui disent « mais ce n'est plus possible, on nous a humiliés en tel siècle, on nous a réduits en esclavage, on nous a exploités », ou d'autres, l'inverse, disent « il fut un temps, nous étions glorieux, nous étions les maîtres du monde » et qui ont cette nostalgie. Donc vous voyez, il y a toutes ces voix qui montent du passé.
Et c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, en ce moment, en France, par exemple, ce besoin de faire revenir ces voix du passé pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre, ou en Europe, plus largement.
On en a besoin, mais là encore, c'est une question d'ouïe. Il y en a, du côté des populistes et autres, qui ont l'oreille collée à des voix glorieuses du passé, et des voix parfois totalement magnifiées, et qui voudraient à nouveau à nouveau s'imposer dans une espèce d'image magnifiée d'eux-mêmes et de leur pays. Mais il y a aussi ceux qui oublient ou qui n'entendent pas certaines voix. On peut en parler aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, et je trouve que, bien sûr, il y a toujours, un travail de mémoire qui est fait, de rappel de l'histoire, mais malheureusement, est-ce que c'est fait insuffisamment ou est-ce qu'on n'est pas suffisamment à l'écoute ou trop distrait par trop d'autres informations, mais on a tendance à oublier, avec le passage du temps, avec le recul, on a tendance à oublier des faits qui pour moi, sont encore, je trouve, tout à fait brûlants. C'est-à-dire les atrocités commises au cours de la Seconde Guerre mondiale, où les gens qui sont pour une dislocation de l'Europe oublient ce qui s'est passé quand même pendant des siècles en Europe. Rien que le XXe siècle, la guerre de 14-18, et puis surtout cette période qu'on a qualifiée après de Shoah, on a la mémoire quand même très courte sur la gravité, même le mot est trop faible, c'est au-delà de la gravité des faits commis à cette époque.
Et dans Le Vent qui reprend ses tours, votre personnage Nathan, lui, part à l'Est, hein, sur les traces aussi de cette histoire, sur les traces de la première vie de son héros, qui est un oublié de l'histoire, comme beaucoup, de Baragon près de la mer Noire, au fort de Jilava, aux environs de Bucarest. Le passé de Gavril, avant l'existe, renvoie aussi à ces pages assez sombres de l'histoire. C'est une histoire que vous connaissiez déjà bien, ou que vous êtes allé chercher sur place, ou que vous avez documenté?
Non, non. Bien sûr, j'en avais entendu parler, je me suis documentée, même si après un livre est totalement de fiction où tout est inventé, mais dès qu'il y a des références à l'histoire, il y a un minimum de documentation à faire. Et il y a un personnage que je cite qui n'est pas un personnage inventé, qui est juste mentionné avec quelques citations, c'est celui de Nikolai Steinhardt, qui a réellement existé, et j'avais lu le livre qu'il avait écrit après être sorti de prison, et qui avait été déporté justement dans cette fameuse prison qui était à l'évidence une véritable horreur, un centre presque d'extermination de Jilava, je sais pas comment on prononce exactement, proche de un peu au sud de la ville de Bucarest. Et j'avais lu son témoignage, un gros livre qui s'appelait Journal de la Félicité, et c'était assez étonnant. Et déjà je m'étais un petit peu renseignée sur certaines choses qui avaient pu se passer là-bas, parce que chaque pays a eu quand même, tout en étant pris dans une tourmente la même, celle de déferlement du nazisme et les atrocités commises, et puis ensuite la déferlante communiste et un mouvement de balancier qui a quand même créé à chaque fois énormément de déportations et de mises à mort. Bon, j'étais déjà très sensible à ces sujets-là.
Gavril, il s'intéresse, vous l'évoquiez aussi, au memento et aux stigmates, ces plaques apposées sur les façades d'immeubles qui, là encore, nous rappellent le passé qu'on aurait tendance à oublier. On peut y lire beaucoup de choses, y voir beaucoup à travers elles. Après avoir retracé tant que possible la vie de Gavril à partir des enregistrements que lui confie Awa, cette femme qu'il rencontre à l'hôpital, Nathan, lui, va décider de tout quitter. Et sur la façade de son immeuble à lui, il va apposer une autre plaque. Ici a végété un ectoplasme humain de 94 à 2016. Est-ce que vous, Sylvie Germain, comme votre personnage, il vous est arrivé de changer complètement de vie, d'avoir envie de recommencer à zéro, ailleurs, autrement, d'être une autre personne?
Non, pas suffisamment, mais peut-être parce que je délègue ça à l'écriture. Que chaque fois qu'on se lance dans un livre, quel qu'il soit, ça peut même être simplement un essai, mais plus encore dans des romans, c'est peut-être une façon de lancer comme ces plantes qui lancent des sortes de racines aériennes comme ça, et c'est peut-être une manière d'essayer de changer ou d'explorer d'autres manières de vivre.
Sans y trouver forcément le bonheur, ou vous, dans l'écriture, il y a toujours ce tumulte intérieur qui apporte quand même aussi cet élan de vie?
Oui, ben c'est toujours très ambivalent, le rapport à l'écriture ou le rapport à toute forme de création artistique, hein, j'imagine. C'est un mélange, parfois il y a de l'exaltation, il y a une véritable jouissance dans le fait de pouvoir écrire, de pétrir les mots, de pétrir son imaginaire, de laisser advenir des pans de mémoire, d'images peut-être déformé du fin fond de sa mémoire à fleur d'oubli. Bon, il y a tout ça, mais en même temps, il y a des moments extrêmement durs. On oscille entre jubilation, effort, moments d'angoisse, de doute sur ce qu'on fait, et puis les moments de dessèchement, et qui peuvent être très très longs. Mais si on perdait toute cette ambivalence, est-ce qu'on pourrait continuer à écrire, ou alors on fabriquerait des livres? Mais la saveur de l'écriture, c'est qu'à chaque fois on ne sait pas où on va, et je trouve ça, je dois avouer, avec l'âge, de plus en plus difficile et éprouvant. Et en même temps, au bout d'un moment, on y revient, parce que c'est le démon qui nous habite.
Et c'est une forme de liberté aussi.
Très grande, très grande. Mais la liberté, c'est, pour moi, c'est jamais une donnée. C'est un processus et c'est quelque chose à recommencer tout le temps. Et la liberté fondamentale, ça commence par une liberté qu'on essaye d'aménager à l'intérieur de soi. C'est de l'ordre de la délivrance. C'est un mot que j'aime bien parce qu'il montre qu'il y a un processus, que c'est pas, voilà, simplement une donnée.
Si tu t'imagines Raymond Queneau, Juliette Gréco.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses.
Et là aussi, les mots, comme le vent, reprennent leur tour. Hein. Sylvie Germain, dans cette chanson que Gavril affectionne et dont il cite des bribes.
Dont il cite des bribes qu'il entremêle à d'autres poèmes et qui intriguent beaucoup l'enfant, qui voit qu'on peut jouer comme ça avec le langage et en éprouver un intense plaisir.
Et l'enfant qui apprend à travers lui aussi la force de l'imagination, parce que c'est aussi un roman sur l'enfance et l'importance de laisser à chaque enfant, de ne pas le contraindre, de lui laisser de la place pour se développer, pour s'émanciper, pour apprendre
oui,
ce qu'est la liberté.
Oui, parce que si on le meurtrit trop et trop tôt, l'adulte à venir sera amputé de cette enfance.
Et tout est triqué. Merci beaucoup Sylvie
Merci
Germain.
À vous.
Le vent reprend ses tours, votre roman vient de paraître chez Albin Michel. Merci.